Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je vous propose que nous fassions notre lecture ce soir dans un passage du livre d'Ézéchiel. Oh là, ça va nous chercher très loin ça, Ézéchiel, n'est-ce pas? Livre du prophète Ézéchiel. C'est un livre que on ouvre peu, me semble-t-il, parce que c'est difficile à comprendre. Hein, c'est une vision, enfin c'est une succession de visions. Il est prophète, hein. Il ne faut pas l'oublier, c'est au chapitre 47. Alors c'est peut-être un des passages les plus connus d'Ézéchiel. Je voudrais le commenter, lui donner un sens. Je vous parlais de rafraîchissement ce soir, ça vous va? Je pense que ça va être le bienvenu, le rafraîchissement, non? Voilà, alors. Mais c'est un rafraîchissement spirituel, hein? Je ne vous offre rien de plus. Alors, Ézéchiel, chapitre 47, verset 3. On va lire d'abord deux versets, ensuite on développera par la suite. Prophète Ézéchiel, chapitre 47, verset 3, je vous ai dit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent, une rivière, un fleuve. C'était un torrent dont je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent que ne pouvait traverser. Voilà, on va s'arrêter là dans un premier temps. Et je pense que ça illustre très bien ce que l'apôtre Paul a écrit à un moment donné en ce qui concerne la dimension spirituelle, la foi, la grâce particulièrement. Il dira ceci. C'est une louange qu'il adresse à Dieu, il dira, comme encouragement aux chrétiens de tous les temps, à celui qui peut, par sa puissance, qui agit en nous, faire au-delà, et il ajoute infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander et imaginer. C'est-à-dire que les possibilités de Dieu sont infinies, et il s'agit d'une vision que le prophète Ézéchiel reçoit, il voit un homme. Et cet homme est en train de faire quelque chose de tout à fait particulier. Il voit une rivière qui coule du temple. Alors, on se remet dans le contexte naturellement des Juifs de cette époque de l'Ancien Testament. Une rivière, un torrent, un fleuve qui coule du temple. Cet homme, dans la vision, s'avance et il tient à la main un cordeau, si vous voulez, eh bien, un instrument de mesure, hein, on pourrait appeler ça comme on veut, un cordeau à la main auquel, eh bien, il compte, avec lequel il compte d'abord 1000 coudées. Et à ce moment-là, il appelle le prophète pour qu'il traverse sur cette distance, et le prophète a de l'eau jusqu'aux chevilles. C'est-à-dire que, bon, aucun danger se présente, il a les pieds dans l'eau, tout simplement. Et puis voilà que, un peu plus tard, il compte encore 1000 coudées, et il appelle le prophète pour qu'il avance encore, eh bien, dans la rivière, dans l'eau. Et là, à ce moment-là, le prophète s'aperçoit que ce n'est plus de l'eau jusqu'aux chevilles, mais c'est de l'eau jusqu'aux genoux. C'est-à-dire que ça commence, eh bien, là, à l'entourer, tout simplement. Une troisième fois, l'homme de la vision demande au prophète, eh bien, d'aller encore un peu plus loin, et là, il va tirer encore, finalement, 1000 coudées ensuite, et cette fois le prophète s'aperçoit qu'il a de l'eau jusqu'à la taille. Les chevilles, les genoux, la taille. Et puis une dernière fois, eh bien à ce moment-là, encore 1000 coudées, un peu plus loin, et le prophète ne peut plus traverser parce qu'il faut nager. C'est quelque chose qui le submerge. Il faut absolument nager, il n'a plus pied. C'est l'image, finalement, et bien de la grâce de Dieu, la puissance de l'Évangile dans la vie des hommes, à travers, et bien là, cette action de la foi qui nous fait avancer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la Bible, il est question d'avancer, il est question de marcher, parfois il est question de courir, mais d'aller de l'avant, toujours en avant. Et naturellement, eh bien, ça illustrait certainement eh bien, quelque chose de tout à fait particulier pour le prophète Ézéchiel qui devait enseigner Israël. Mais je pense que c'est tout à fait d'actualité également pour nous, c'est-à-dire que nous n'avons pas à nous contenter de marcher avec Dieu jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, ensuite jusqu'à la taille, mais de pouvoir finalement être submergé par l'eau pour flotter. D'ailleurs, c'est l'époque, il y a beaucoup de gens qui se baignent. Alors les plus timides restent sur le bord, les autres vont un peu plus loin pour se rafraîchir, d'autres éprouvent le besoin de pouvoir être un petit peu immergés, et puis à un moment donné, il faut se lâcher. C'est la marche par la foi. Quand on se baigne, ou quand on va soit dans la mer ou dans une piscine, à un moment donné, si on sait nager, on va là où c'est le plus intéressant, c'est-à-dire que quand on n'a plus pied. Et ça s'apprend, nager. Il y a des gens qui ne savent pas nager, mais ils sont en danger. Tant qu'ils sont sur la terre ferme, il n'y a pas de problème. Mais, qui sait, il y a peut-être des nécessités, quelquefois, où il faut savoir nager. Et d'ailleurs, depuis des années, voire même des décennies, on enseigne aux enfants, pour pouvoir savoir être, finalement, et savoir se comporter, et d'avoir les bons mouvements, pour sauver sa vie, tout simplement. Alors voilà, on a vu un petit peu la configuration. Et c'est vrai que dans la vie spirituelle, dans ce que nous connaissons, dans ce que nous avons appris, dans ce que Dieu nous enseigne, à travers ses promesses, à travers ce qu'il a de bon pour nous, et particulièrement la grâce, parce que c'est une grâce, tout est une grâce, c'est pas la loi, bien que on voit que c'était à une époque où la loi était prédominante, mais on s'aperçoit que déjà a été enseigné l'Évangile, c'est-à-dire que suivre Dieu, marcher avec Dieu n'est pas un devoir, n'est pas une obligation, mais c'est une joie, c'est un bonheur. Et c'est vrai, c'est un plaisir peut-être pour ceux qui apprennent à nager, à un moment donné, d'aller là où ils n'ont pas pied, de ne pas rester sur les bords de la piscine, parce que ça c'est la crainte, c'est la peur. Et vous savez que les craintes et les peurs, ça nous fait couler. Et si nous sommes toujours en train de regarder la profondeur, mais faut y aller, tout simplement. Donc c'est une très belle image qui nous est présentée ces premiers versets. Puis je voudrais vous faire remarquer également, c'est que la rivière, le torrent, prend sa source en Dieu. Donc il n'y a pas de confusion à avoir avec l'apprentissage de la natation, d'une manière matérielle, d'une manière physique. Mais la source vient de Dieu, elle sort du temple. Et nous voyons que donc c'est une très belle introduction. J'aimerais mettre devant vous, partager ce soir, sept symboles là où la rivière de Dieu coule. Là où l'eau de Dieu, où le torrent de Dieu, nous appelle à aller comme Pierre l'aura entendu de Jésus, va en pleine eau et jette le filet. Eh oui, c'est pas sur le bord. Et quand Jésus a dit ça à Pierre, un homme fatigué, harassé parce qu'il avait été à la pêche toute la nuit, il n'avait rien pris, probablement démoralisé et décontenancé, un individu qui vient, c'est Jésus, et qui lui dit maintenant, avance en pleine eau et jette les filets. Et on sait très bien ce qu'il est advenu de tout cela. Il a jeté son filet, normalement il devait jeter ses filets, mais il a jeté son filet et il a ramené la pêche miraculeuse. Eh bien c'est la même chose, si nous nous contentons, nous, simplement d'avancer avec Dieu jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, ça nous fera pas de mal, ça c'est certain, ça peut nous rafraîchir, mais c'est pas la plénitude. Dieu nous appelle et appelle les hommes à la plénitude du salut en passant par la repentance, par la conversion, c'est-à-dire un choix non pas d'une église mais de Jésus-Christ, à travers l'expérience d'une nouvelle naissance qui transforme finalement notre vie, et puis pourquoi pas dire aussi l'autre étape qui nous fait nager dans cette dimension nouvelle de la vie spirituelle, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. On peut mettre tout cela dans cette image naturellement. Alors je vous ai parlé de sept symboles de bénédiction pour avancer en pleine eau. Vous savez que c'est Jésus qui dira, et c'est bien que ce soit Jésus qui le dise, parce que je pense que c'est la référence des références. Je voudrais simplement vous lire un petit texte, c'est dans Jean chapitre 7, hein, mais au verset 37, il est dit ceci. Il est dit ceci, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves, les questions des fleuves comme nous l'avons lu dans Ézéchiel, des fleuves, rivières d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et Jésus parlait particulièrement de ce que nous avons souligné en quatrième position, c'est-à-dire non pas avoir de l'eau à moitié, mais de ne plus avoir pied pour nous élancer dans la dimension de la grâce et de la vie. Il nous est dit, mais Jésus dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient, car le Saint-Esprit n'avait pas été encore donné, Jésus n'avait pas été encore crucifié à ce moment-là où il parlait, la Pentecôte n'avait pas été encore répandue, mais la promesse était là. Et la promesse, c'est comme si nous étions encore avant la Pentecôte pour chacun d'entre nous, pour ceux qui sont encore jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin. La plénitude de la vie spirituelle, de la foi, parce que donc Jésus n'avait pas été crucifié, glorifié. Alors à ce moment-là, c'est l'invitation. Vous avez remarqué avec moi, et je voudrais souligner cette parole, qui s'attache à notre pensée, à notre symbole, si quelqu'un a soif, eh bien qu'il boive. Eh oui. Vous savez, pour recevoir la plénitude de Dieu, la plénitude de la vie, de pouvoir être débarrassé de tout ce qui nous encombre, et il y en a des choses qui nous encombrent. Il y a bien des choses qui font obstacle. Il y a la peur, il y a la culpabilité, il y a des tracas, c'est la vie, de toute manière. Mais nous pouvons transcender, si je peux me permettre de dire cela, cette dimension avec la densité de la vie de Christ, de la vie de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est une invitation qui nous est donnée encore ce soir, pour chacun d'entre nous. Si quelquefois nous nous sentons en peine, ou si nous nous sentons en panne, eh bien le Seigneur est là pour dire, bien écoute, avance, va un peu plus loin, approche-toi de moi, commence à rentrer dans l'eau de la vie. Si tu as soif, parce qu'il faut avoir soif, Dieu ne sauve pas par-delà et contre la volonté des hommes, il faut avoir soif. Et moi je pense qu'il y a des hommes et des femmes autour de nous, peut-être nous-mêmes ce soir. Nous sommes venus écouter l'Évangile parce que nous avons une recherche. Nous avons un besoin à l'intérieur de notre cœur d'en savoir davantage. Non pas sur l'Église, non pas sur la manière de faire, etc., etc. Mais d'en savoir davantage sur Dieu, sur Jésus, sur sa parole. Et ça, c'est vraiment le chemin qui va nous conduire eh bien, à aller peut-être à marcher, à nous enfoncer plus profondément dans cette rivière, dans ce torrent de la grâce, de la bénédiction de Dieu, genoux, la taille, et puis ensuite de nous laisser porter. Et se laisser porter, c'est un acte de foi, je l'ai dit. C'est vrai que la natation, eh bien, quand on sait qu'on n'a plus pied, qu'on sait nager, on n'a pas peur. On se débrouille, on flotte. Maintenant, c'est vrai que lorsque nous sommes pris de panique, eh bien, on coule. Et on boit la tasse. Non, mais c'est une... La tasse, ça peut être grande, quelquefois. Elle est vaste. Mais toujours est-il que c'est cette démarche qui est illustrée à travers ça. Donc, c'est avoir soif sur une terre desséchée. Et moi, je crois que nous vivons dans un monde, comme il a toujours été d'ailleurs, où le dessèchement est partout. Ce n'est pas une question climatique comme en ce moment. Non, non. Ce n'est pas les excès de canicule ou de chaleur. Ce n'est pas ça. Mais moi, je crois qu'il n'y a pas que la terre qui est desséchée. Il y a des âmes qui sont desséchées. Il y a des cœurs qui sont desséchés. Il y a des vies qui sont desséchées à travers, eh bien là... toutes les péripéties de l'existence et qui finissent peu à peu, eh bien finalement, à nous atteindre, à nous diminuer, à enlever notre paix, à captiver notre joie, qui fait que nous avons besoin à ce moment-là vraiment de quelque chose de nouveau. On le chante très souvent dans nos cantiques, crée en moi un cœur nouveau, crée en moi une vie nouvelle, et ça c'est une très belle prière. Dans la Bible, il est parlé d'un deuxième symbole. Je l'ai pas imaginé, mais je l'ai trouvé dans le Nouveau Testament, où là, eh bien, il est question finalement d'un lieu favorable. Oui, alors on a parlé naturellement pour Ézéchiel, c'était de traverser le torrent. Un lieu qui avait été choisi par Dieu, à travers une vision, à travers l'obéissance à un homme qui était dans la vision et qui demandait au prophète d'avancer. Non pas de reculer, non pas de fuir, mais d'avancer en pleine eau. Vous vous souvenez de l'histoire, et vous en souviendrez naturellement, de l'histoire de cette femme qui s'appelait Lydie. Et un lieu favorable, Nous allons le voir parce qu'on a dit qu'il fallait avoir soif. Mais cette soif, elle s'exprime à travers une démarche de notre part. Cette démarche, on la connaît tous quand on est chrétien. On la connaît aussi probablement d'une façon ou d'une autre, parfois maladroite. Mais c'est cette démarche qui est la prière de la foi pour exprimer notre soif. Et il y avait finalement, eh bien, du temps de l'apôtre Paul dans l'église première, il y avait une histoire qui nous est racontée, qui nous est rapportée dans le livre des Actes au chapitre 16. Il est dit ceci, qu'un jour de sabbat, eh bien, Paul avec ses compagnons se sont rendus hors de la porte de la ville où ils se trouvaient et vers une rivière, oui, où nous pensions trouver un lieu de prière. Et de fait, il y avait là un lieu de prière auprès de, dans ce site ombragé probablement, parce que là où il y a, et on va le voir tout à l'heure, là où il y a de la fraîcheur, là où il y a un torrent, là où il y a une rivière, un fleuve, il y a toujours des arbres. Dans la majorité des cas, hein. C'est souvent comme ça, hein, parce que bon, c'est une bénédiction. Je pense que les végétaux y trouvent finalement le terrain favorable et tout ce qu'il aurait finalement proposé, hein, l'eau en tous les cas. Alors à ce moment-là, ils ont été dans ce lieu. Il nous est pas dit quelle rivière, mais c'était un lieu où il y avait une femme qui avait soif. Et elle avait énormément soif, cette femme, parce qu'il nous est dit qu'elle s'appelait Lydie. Et il nous est simplement rappelé que, bon, son état, sa situation, elle était commerçante. Et c'était une femme craignant Dieu. Elle ne connaissait pas Dieu, réellement, mais elle craignait Dieu. Il y a énormément, il y a probablement des millions et des millions de gens qui sont des craignants Dieu, sans le connaître. Soit par leur éducation, soit parce que la religion leur a donné quelques rudiments de vérité sur Dieu, quelques aspirations. Alors il nous est dit que c'était une femme qui craignait Dieu et elle écoutait. C'est ça la grande différence. C'est comme ceux qui nous rejoignent, ils viennent pour entendre, ils viennent pour écouter, ils viennent pour écouter et croire. C'est ça. Parce que c'est le but. Hein, la foi vient de ce que l'on entend, nous dit l'apôtre Paul dans Romains, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et ce que nous ne voulons faire pas autrement, c'est que d'annoncer dans ces réunions qui sont régulières dans cette église ou dans ce lieu, eh bien, c'est d'annoncer Jésus. Et ça, c'est important, d'annoncer Dieu, d'annoncer les promesses de Dieu, d'annoncer cette parole extraordinaire qui est la Bible, l'Évangile en tous les cas. Et il nous est dit qu'à ce moment-là, c'était une femme craignant Dieu, et elle écoutait, et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive de ce que Paul disait. Ça, c'est formidable. Une femme qui a soif, aller auprès d'une rivière, elle pouvait se désaltérer si l'eau était impure à ce moment-là. Elle pouvait se désaltérer, mais elle était auprès de cette rivière, non pas pour boire, où elle avait peut-être, eh bien là, consommé de l'eau pour ses besoins physiques, mais elle était là pour prier Dieu. Et vous savez, je crois que c'est extraordinaire parce que Dieu nous a donné tout ce qui contribue, finalement, eh bien, à la foi, à notre vie spirituelle, et qu'il fait au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous pouvons même lui demander. Nous l'avons lu tout à l'heure, il y a un instant, hein, que Dieu fait infiniment au-delà. Cette femme était venue avec d'autres femmes dans ce lieu de prière, auprès de cette rivière. Elle s'attendait pas à vivre une chose extraordinaire qui allait bouleverser sa vie. Et voilà des hommes, Paul et ses compagnons, qui sont des envoyés de Dieu, qui sont des apôtres, qui sont des évangélistes, qui vont lui parler de Jésus-Christ. Et là, il nous est simplement dit que les dispositions dans son cœur étaient déjà favorables. Elle avait cette crainte de Dieu, elle écoutait, et Dieu ouvrit son esprit pour qu'elle comprenne. C'est extraordinaire. Et c'est ça, justement, le but. Ce que nous pouvons regretter, c'est que dans nos réunions d'évangélisation aujourd'hui, il n'y ait pas plus de monde. Je pense que si toutes ces chaises étaient pleines ce soir, ce que nous demandons régulièrement, eh bien, je suis sûr qu'il y aurait des hommes et des femmes qui seraient touchés. Non pas par la prédication du prédicateur, non, mais touché par l'Esprit de Dieu qui agit là où il y a des hommes et des femmes qui viennent auprès de la rivière, auprès du torrent, pour se désaltérer de la parole de Dieu, et c'est ce qui donne la foi, la parole de Dieu. Et il nous est dit que l'œuvre de Dieu, c'est pas cette femme qui a eu un déclic, non, c'est Dieu qui a ouvert son, pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Et elle a cru. C'est ça. Premier symbole dont nous avons vu, premier symbole de bénédiction, c'est avoir soif. Deuxième que nous avons vu, c'est la prière, tout simplement. Et c'est aussi un témoignage. Parce que Paul a rendu témoignage à cette femme. Il ne nous est pas dit si les autres femmes qui étaient là avec Lydie se sont converties, mais il nous est dit que Lydie s'est convertie. Et que Lydie a emmené Paul dans sa maison et que toute la famille a cru aussi. Puisque le jour même, ils ont été baptisés. Ça a été vite, hein. Bon, peut-être que c'était comme ça à l'époque. C'est un témoignage. Aspect de, finalement, de cette bénédiction, de ce symbole de bénédiction. Vous savez, il est dit, jette ton pain à la surface des eaux, à la surface du ruisseau, à la surface de la rivière, à la surface du torrent, et avec le temps, tu le retrouveras. Eh oui, la prière, lorsque nous prions notre soif, nous prions Dieu, parce que nous avons soif. Et cette soif, c'est pas nous qui l'avons créée, c'est Dieu qui l'a créée dans notre cœur, comme chez Lydie. Il y a une attente. Il y a un désir. Il y a quelque chose qui brûle dans le cœur, qui a besoin d'être étanché, qui a besoin d'être, assouvi. Et Paul avait certainement compris dans sa mission d'évangéliste ce que voulait dire ce vieux proverbe de la Bible, « Jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps tu le retrouveras ». Il n'a pas mis longtemps à le retrouver, puisque les choses ont été très rapides dans cette circonstance. Mais je pense que pour tous ceux qui s'approchent de Dieu, si vous avez faim, si vous avez soif en particulier, puisqu'il est question d'eau, à ce moment-là, eh bien, auprès de cette rivière, qui est la source de toutes les bénédictions et la grâce de Dieu, qui est la parole de Dieu. Paul prêchait, moi ce soir, je fais la même chose que lui. Alors à ce moment-là, je jette cette parole. Je ne sais pas si j'en verrai les fruits, mais peu importe. Ce n'est plus mon affaire, c'est l'affaire du Saint-Esprit qui travaille dans les cœurs et dans les vies, et qui rajoute à son Église, qui rajoute au peuple de Dieu, ceux qui sont sauvés. Crois et tu seras sauvé. Ça, c'est le deuxième symbole de bénédiction. Il y a dans le prophète Ésaïe aussi quelque chose qui est significatif. C'est un symbole d'abondance. Dans Ésaïe, au chapitre 33 et au verset 21, il est fait mention de quelque chose qui nous parle d'abondance. Donc 33:21, où il est dit: C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières. Eh oui. On se souvient que Jésus a dit que celui qui a soif vienne à moi et que les fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est ce qu'il dira également, je vous le rappelle pour mémoire, mais c'est ce qu'il a dit à la Samaritaine. Si tu crois au don de Dieu, quel est celui qui te dit, eh bien, qu'il est capable de te donner de l'eau, de la vie éternelle, alors à ce moment-là, eh bien, il y aura quelque chose qui va couler de ton sein, de tes entrailles, de ton cœur, de ton âme, du plus profond de toi-même. Et c'est pour ça qu'Ésaïe reprendra cette pensée, parce qu'elle est belle. Il nous est dit tout simplement, mais c'est là vraiment, c'est en Dieu, c'est auprès de lui, c'est en lui, eh bien, que l'Éternel est magnifique pour nous. Vous savez, tous ceux qui se sont convertis, qui ont fait l'expérience, et vous l'avez faite les uns et les autres, je crois qu'il n'y a pas de plus grande joie et de plus grande réjouissance, de plus grand bonheur, de savourer cette paix lorsque nous rencontrons Jésus. C'est vrai. Alors, le temps ne doit pas diminuer cela. La flamme ne doit pas, finalement, s'éteindre. Mais c'est quelque chose de formidable. Et si pour certains, vous êtes là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est parce que finalement, vous avez trouvé rien d'autre de meilleur que Jésus. Et c'est pour ça qu'il est dit à un moment donné, c'est vraiment là que l'Éternel est magnifique pour nous. Et nous le disons encore, après des années de conversion, le Seigneur est magnifique pour nous. Tout n'est pas bien, tout n'est pas rose dans la vie. Tout n'est pas formidable, nous n'obtenons pas toujours ce que nous voulons. Nous connaissons parfois des deuils, des séparations. Nous connaissons quelquefois la maladie et toutes sortes de choses. Mais écoutez bien, l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuve. Notre ressource, là où nous pouvons nous désaltérer, là où nous pouvons trouver le contentement, la satisfaction, je multiplie les mots, mais il vaille la peine de les multiplier. Il nous tient lieu de fleuve et de vastes rivières, parce que partout il y a des fleuves, partout il y a des torrents et des rivières, il y a là, finalement, de la prospérité, il y a là l'abondance. On le reverra en conclusion d'ici quelques instants. Dans le psaume 36, verset 9, j'ai cité quelques passages ce soir, parce que je pense que c'est bien. Dans le psaume, je vous ai dit, 36, verset 9, il est dit cette parole: il se rassasie, en parlant des hommes qui s'approchent de Dieu, il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Ça vous rappelle rien dans le psaume 37, verset 5, quand il est dit ceci? C'est pas seulement pour les jeunes hommes et les jeunes filles qui commencent leur vie, pas seulement pour, c'est pour tous les hommes. Il est dit, mais fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça, c'est inséré dans notre cœur. Dans tous les débuts d'existence, dans les grands choix de notre vie, que ce soit dans la vie économique, dans la vie matérielle, dans la vie sentimentale, affective, tout ce que vous voudrez, eh bien, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que, quelque part, c'est lui qui va incliner ton cœur, dans le sens que tu puisses trouver vraiment le contentement, la bénédiction, celle que l'Éternel donne et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Ça, c'est important. Que de choix qui sont faits ternairement, qui sont faits sur des coups de cœur ou des coups de foudre ou des coups d'emballement, et qui quelque part, lorsque nous ouvrons le paquet, le cadeau, nous apercevons que c'est pas tout à fait ce que nous voulions. Ça correspond pas à notre âme. Ça correspond pas forcément à nos goûts. Il y a eu peut-être une fascination, il y a peut-être une séduction, il y a peut-être une envie, mais pour que ce soit durable, il faut que ce soit Dieu qui mette dans notre cœur, eh bien, ce qui sera bon et ce qui sera durable, ce qui aura de la pérennité pour nous, et lui le sait, nous on ne sait pas. C'est à l'usage, c'est dans le temps que ça se vérifie. Écoutez, c'est beau cette parole. Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves du torrent de tes délices. Eh oui. Il fait au-delà et infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, demander et imaginer. Notre vie, c'est pas nous qui la conduisons. Les gens autour de nous pensent avoir la maîtrise de leur existence. Ils se disent, je veux faire ceci, je veux faire cela, et puis peu importe Dieu, il y en a qui n'ont rien à faire de Dieu. Mais quand on a ces craintes de Dieu, comme Lydie, eh bien je pense qu'il est bon de pouvoir quelquefois faire une pause, d'aller auprès de la rivière de la prière, de jeter notre pain à la surface des eaux, et l'exaucement nous reviendra à un moment donné. Faut savoir attendre, faut être patient, il faut que le temps soit mûr, il faut que le temps de Dieu ait fait son œuvre dans nos cœurs, et quand ça vient, on a parlé de délices, c'est bon, c'est formidable, et ça c'est vraiment la joie de l'esprit, c'est la joie qui nous comble. La soif sur une terre désaltérée, là où il y a de la sécheresse, dans les cœurs et dans les vies. Le lieu favorable à prière, on l'a vu il y a un instant. C'est l'abondance dans Ésaïe. C'est l'excellence dans ce que nous venons de dire. Oui, tu leur donnes tes délices. Et puis il y a le secours divin aussi, parce que les choses ne sont pas forcément comme nous le pensons, mais il y a toujours dans ce que nous proposons de recevoir de meilleur de Dieu, c'est pas ce qui est bon, mais ce qui est meilleur. Dites-vous bien, les uns et les autres, chacun d'entre nous, que Dieu n'a pas seulement ce qui est bon. Il a ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il veut nous donner le meilleur. Si nous, nos parents, nous ont donné, et si vous, parents, vous donnez ce qu'il y a de mieux à vos enfants en priorité, peut-être à d'autres enfants, à d'autres personnes, eh bien, vous allez toujours donner ce qu'il y a de meilleur pour vos enfants. Eh bien, Dieu a plus forte raison, parce que Dieu n'est pas un homme comme nous, hein, il n'est pas semblable à nous. C'est la perfection même. Eh bien, Dieu va nous donner véritablement l'excellence, on l'a vu, il y a un moment, il va nous donner l'abondance, mais il va nous donner ce qu'il y a de meilleur. Et dans ce fameux psaume 10, il est parlé du secours divin comme étant, eh bien là, un des symboles de la bénédiction de Dieu à travers ce fleuve. Jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux. Jusqu'à la taille, ou alors à ce moment-là, nous allons nous laisser emporter et nous allons nager dans cette grâce. Nous allons avoir la plénitude parce que c'est l'image. Alors, au verset 7, il est dit cette parole, en parlant de l'homme qui s'approche de Dieu, il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Et vous savez, dans les moments de joie, de bonheur, des moments de contentement, de satisfaction, il y a aussi l'envers de la on pourrait dire l'envers du décor. Il y a toujours dans ce monde le bien et le mal. Il y a toujours, quelquefois, eh bien, des temps de paix, mais des temps de combat, de lutte, des défis à relever. C'est comme ça, c'est la terre. La vie est ainsi. Il y a des bons moments que nous traversons et dont nous en gardons un souvenir formidable, sans nostalgie des bons moments, parce qu'il y en aura toujours de meilleurs à l'avenir, mais quelquefois il y a des sacrés moments, hein. Des moments d'épreuve, des moments de souffrance, des moments de douleur, des moments de doute, des moments où nous perdons pied, où là, eh bien, nous croyons que nous allons couler parce que nous ne savons pas toujours nager, où nous avons perdu finalement, eh bien, l'équilibre, et c'est là où nous trébuchons, c'est là où quelquefois nous vacillons, c'est là où nous n'avons plus pied. Alors on coule. Et écoutez, tant que nous boirons au torrent de Dieu, tant que nous nous laisserons emporter par le courant qui sort, le torrent qui sort du temple, cette rivière qui vient de Dieu, alors il boit au torrent pendant la marche. La marche, c'est la vie qui se déroule. La vie, ça peut être long. Les moments de joie sont quelquefois, ou de bonheur, sont fugitifs. Mais les moments de douleur sont longs. C'est vrai. Hein, ça, les jours sont interminables. Les nuits aussi. Les mois peut-être pour certains. Alors il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Et il est dit à un moment donné que le juste, le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en relève toujours. Ouais, ça c'est notre espérance. Pour chacun d'entre nous. Nous l'avons vu, hein, parmi vous. Nous l'avons vu dans les chrétiens des églises, où quelquefois il y en a qui ont passé par des moments terribles. Mais à un moment donné, nous nous sommes réjouis, les uns et les autres, parce que nous avons prié ensemble. Parce que nous avons été auprès de la rivière de Dieu. Et que nous avons vu que Dieu a délivré un tel ou une telle. Il les a arrachés de la mort, dans certains cas. Ils ont reçu, finalement, eh bien, la délivrance. Ils ont relevé la tête. Ça, c'est quelque chose qui est indissociable de la vie dans laquelle nous sommes. Mais souvenons-nous, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants du Père Céleste, surtout selon la terminologie du Nouveau Testament, c'est-à-dire de l'Évangile, nous sommes des enfants, nous sommes ses fils et ses filles. Il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous délaisser. Et ça, faut que vous soyez convaincus. Faut que vous le sachiez, faut que vous l'entendiez encore ce soir. Ça fait partie des symboles dont nous parlions, là où coule la rivière de Dieu naturellement, le secours divin. Et en conclusion, eh bien c'est la suite, et je terminerai justement sur cette suite. Il nous est dit que, car l'eau était si profonde, hein, c'est le dernier verset que nous avons lu, qu'il fallait y nager. Alors maintenant on sait comment faire, il faut y nager. Nous sommes appelés à y nager dans ce torrent de Dieu. C'était un torrent que nous pouvions traverser. On ne pourra jamais le traverser tout seul, avec notre religiosité, avec notre piété, avec nos mérites, avec nos bonnes œuvres, avec nos dévotions, avec tout ce que vous voudrez que le monde a inventé pour illusionner les hommes, qu'il y a véritablement un fondement qui est immuable, qui n'est pas celui de la religion, mais qui est celui de la foi en Jésus-Christ. On en parlera bientôt dimanche prochain. Je vais le rappeler d'une manière significative. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une dénomination religieuse, quelle qu'elle soit chrétienne ou non, qui sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. Et ça, il faut que ça rentre. Il y a des millions et des millions d'hommes qui pensent, parce qu'ils vont à l'église, parce qu'ils appartiennent à une église, parce qu'ils ont été baptisés dans une église, qu'ils seront sauvés. C'est pas l'église qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ et en Jésus seul. C'est irrémédiable. Je n'invente rien, c'est Jésus qui nous le dit lui-même, et c'est la parole de Dieu qui le confirme. Pas l'Église, c'est Jésus. Que l'Église est une dimension, qu'elle est un rôle à jouer, d'accord, mais sans autre. Alors, on va un peu plus loin. Cet homme de la vision dit au prophète, « As-tu vu, fils de l'homme ? » Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, c'est-à-dire vers l'est, vers l'orient, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Les eaux de la mer sont saumâtres, enfin, sont salées. C'est normal. Alors, pour aller un peu plus loin, tout être vivant qui se meut dans la mer, dans les fleuves et dans la mer, vivra partout où le torrent coulera. il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords depuis En-Gedi jusqu'à En-Glaïm. On étendra des filets, il y aura des poissons de diverses espèces comme les poissons de la grande mer. Ils seront très nombreux. On a compris, hein? Que le fleuve de Dieu, la foi en Dieu, la confiance en Dieu que fait naître l'évangile dans notre cœur, non pas lorsque nous sommes à moitié dans l'eau, mais que lorsque nous sommes à nous laisser porter, c'est-à-dire laisser porter par la foi, alors à ce moment-là, partout cette eau va s'étendre, où elle s'étend, eh bien, elle va assainir tout ce qui est invivable, tout ce qui est mortel, tout ce qui est, eh bien là, apporter la maladie ou autre chose à détruire. C'est bien l'histoire de l'évangile, hein, depuis que Jésus est venu. Ce message de l'évangile depuis 2000 ans a fait le tour de la terre. Et il fait encore le tour de la terre et partout, dans nos pays occidentaux, dans les premiers âges de l'Église primitive, à travers les siècles, jusqu'à notre période contemporaine, à travers les moyens, au départ, c'était des missionnaires qui allaient à pied et qui, au risque de leur vie, au milieu des barbares, annonçaient l'évangile. Aujourd'hui, depuis les grandes missions du 19e siècle, du 20e siècle, à travers les découvertes que nous avons aujourd'hui, par la radio, la télévision, l'internet, etc., etc., mais le monde entier. Et cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. On n'est pas loin de la fin. On n'est pas loin du retour de Jésus-Christ. Le Seigneur revient bientôt. Et on s'aperçoit qu'il y a une accentuation. Et partout, justement, où cette bonne nouvelle est prêchée, où Jésus est mis en avant, où les hommes sont conduits à prier Jésus, à adorer Jésus comme Sauveur et Seigneur, alors, il est question de poissons, il est question de pêcheurs, il est question d'abondance, il est question de santé même, puisque les eaux sont assainies et il y a multiplication. Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire et de formidable. Hein. C'est la rivière de la purification. L'évangile est le message de la purification des péchés, la purification des sociétés, la purification du cœur de l'homme, la purification des âmes, de l'esprit, de la pensée des hommes. Ça se fait individu par individu, mais ça se répand. Là où l'eau jaillit, pour ça que notre mission, eh bien, elle est là. Puis je termine. Ces marais et ces fosses ne seront point assainies. Ils seront abandonnés au sel. Il y a des endroits où les hommes refuseront la grâce de Dieu. Ils ne voudront pas croire. C'est le monde de l'incrédulité, c'est le monde du paganisme invétéré. C'est le monde où les gens disent, eh bien, Dieu n'existe pas, Dieu est mort. Bon, ça restera comme ça. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leurs feuilles se ne flétira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu, l'évangile de Dieu. Au cœur de cela, eh bien, c'est Jésus-Christ vivant, mort pour les hommes, ressuscité, mais vivant. Vivant encore aujourd'hui. Ça nous rappelle un peu le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, chapitre 22. Si vous connaissez le passage, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ça sera la source de guérison pour les hommes. Et déjà l'évangile aujourd'hui est une source de guérison. Moi je crois fermement à la guérison divine, comme cela est écrit dans les évangiles, et comme Jésus a opéré ces guérisons, et comme les apôtres dans le livre des Actes ont prié pour les malades, et les malades étant guéris. Hein. La conclusion du livre de Marc, chapitre 7. Imposez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Mais ça on le croit encore aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une démultiplication des procédés médicaux, il y a des hôpitaux, il y a des dispensaires, il y a des médecins, il y a des spécialistes, etc. Il y a des médicaments, enfin, quand ils nous en empoisonnent pas. Mais bon, toujours est-il, il y a toutes sortes de choses. Mais ça, c'est une confiance finalement dans l'homme, limitée. Ça ne veut pas dire qu'il faut tourner le dos à ce que Dieu a fait à travers les hommes. Mais une chose qui est certaine, c'est que celui qui reste le grand médecin des cœurs, des corps, des âmes et des esprits, ça reste encore Dieu, à travers la personne de Jésus-Christ. Puisque c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et leurs fruits apporteront la guérison. Alors, il n'y a qu'une guérison possible pour notre monde malade. Vous avez vu comment il est malade, notre monde ? Malade de controverses, malade de mensonges, malade de domination, malade par son argent et son enrichissement, malade socialement, malade politiquement, malade religieusement, malade en tout, hein, de la tête aux pieds, comme nous dit le livre du prophète Ésaïe. Tout le corps est malade, et la seule guérison, ce que les hommes ont besoin aujourd'hui, c'est d'entendre le message de Jésus-Christ. Alors il ne faut pas se contenter des chevilles, des genoux, de la taille, il faut se laisser porter par l'Évangile. Et on peut dire au Seigneur, eh bien, Seigneur, donne-moi toujours une plus grande foi en toi, et donne-moi de pouvoir me laisser porter par ce flot divin qui me donne le salut, la grâce et le bonheur. On va prier quelques instants, si vous voulez. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole ce soir. Merci parce que elle est entendue ici. Mais moi, je sais que demain, elle sera tendue encore. Elle sera toujours entendue. Quel que soit le moyen, quel que soit le vecteur, quel que soit le porteur. Nous voulons croire, Père éternel, que cela peu importe, en effet, eh bien, les formes ou les moyens. Ce qui est important, Seigneur, c'est que la voix de Jésus se fasse entendre. Eh bien, partout où il y a des hommes et des femmes qui ont soif, des hommes et des femmes qui prient auprès du torrent de Dieu, des hommes et des femmes qui croient à l'abondance de la bénédiction, qui croient à l'excellence de cette parole merveilleuse qui suscite la foi dans les cœurs et qui, en effet, Père éternel, est capable de nous apporter le secours divin, de nous donner la purification de nos vies, de nos péchés et de nous donner la guérison, qu'elle soit d'ordre physique, moral et spirituel. Bénis ta parole et porte-la le plus loin possible dans les cœurs et dans les vies. Merci Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.